Bienvenue dans les épisodes bonus de Femmes Minimalistes, le podcast qui parle minimalisme en famille. Un lundi sur deux, je partage avec vous des astuces très concrètes et très précises pour vous aider à commencer ou à continuer votre démarche minimaliste. Et comme pour les maxi-épisodes, ces bonus sont accompagnés d'une fiche méthode que vous pouvez télécharger en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la méthode de désencombrement qui a captivé des millions de personnes à travers le monde, la méthode KonMari de Marie Kondo. Depuis tout le temps que je fais ce podcast, il était temps que je rentre un peu dans le détail de la méthode pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Je vais vous expliquer les grandes lignes et partager avec vous ce que j'ai pu garder au nom de cette méthode. Je vais donc commencer par vous la présenter brièvement et que les expertes en accompagnement KonMari m'excusent, je n'ai pas suivi la formation, mais juste lu le livre et tenté de l'appliquer. Et ensuite, je vous donnerai mon opinion sur les limites et les intérêts de cette méthode, parce que bien sûr, rien n'est tout blanc ni tout noir. Vous connaissez probablement Marie Kondo, la consultante en organisation japonaise dont la méthode a inspiré des millions de personnes à travers le globe. Son approche repose sur un principe simple mais puissant, garder uniquement ce qui nous procure de la joie. Imaginez-vous dans votre maison, entouré d'objets qui vous apportent réellement du bonheur. C'est le cœur même de la méthode de Marie Kondo. Et pour arriver à atteindre cet idéal, Marie Kondo nous suggère de suivre un ordre précis lors du désencombrement. Cette approche séquentielle nous permet de nous familiariser avec le processus de tri et de prendre conscience de l'étendue de nos possessions dans chaque catégorie. Tout d'abord, on commence par les vêtements, ou plutôt le textile. Le but est de regrouper tout le textile de la maison pour se rendre compte de l'étendue des dégâts et de faire le tri. C'est impressionnant, mais une excellente approche si on veut se rendre compte de tout ce qu'on a en textile dans la maison. Une fois le textile géré, nous passons au livre. Là encore, quand on rapatrie tout ça, ça devient hyper impressionnant. Puis ensuite, on passe au papier. Et enfin, on finit par ce que Marie Kondo appelle les komonos. C'est les objets divers comme la vaisselle, les appareils électroniques, bref, tout le reste. Une fois que notre muscle du tri est bien échauffé avec toutes ces catégories, on peut passer aux objets sentimentaux. Quand on tient chaque objet dans ses mains, on est invité à se poser une question simple. Est-ce que cet objet fait naître en moi une sensation de joie? Si la réponse est oui, on le garde précieusement. Sinon, on le remercie pour son service et on le laisse partir. Cette étape de remercier ces objets, ça paraît très étrange, mais je vous promets, ça aide vraiment à se séparer de certaines choses devenues inutiles. C'est un des aspects surprenants mais super efficaces de cette méthode que je recommande chaudement. Au-delà du tri, la méthode KonMari évoque également l'importance de l'organisation et du rangement. Elle nous encourage à trouver des solutions de rangement simples et accessibles afin de maintenir l'ordre dans nos espaces de vie. Elle nous enseigne notamment une méthode spéciale de pliage. Ça nous permet non seulement un rangement efficace, mais aussi une visibilité accrue de nos vêtements ou autres objets. Voilà en gros pour la méthode. Et tout en respectant profondément les principes de la méthode et l'influence positive de la personne qui l'a promue, hashtag girlpower, je dois admettre que je reste quelque peu sceptique quant à son application pratique. Au-delà des difficultés que j'ai pu rencontrer en appliquant moi-même la méthode, c'est lors de ma formation en tant que home organizer et surtout en accompagnant des familles dans leur processus de désencombrement que j'ai pleinement réalisé les limites de cette approche. Cette méthode de tri, comme beaucoup d'autres, a été conçue par une personne sans enfant à l'époque. Or, désencombrer une maison avec des enfants peut être particulièrement difficile. Quand on n'a pas d'enfants, on peut laisser les projets en suspens d'une journée à l'autre sans craindre que de petites mains ne fouillent dans les cartons pour tout ressortir. On peut aussi plus facilement réquisitionner un coin de la maison ou une pièce entière comme zone de tri et trouver des tranches de temps ininterrompues. Mais même avec des enfants incroyablement indépendants, il m'est difficile de trouver 4 heures d'affilée pour faire du tri. D'ailleurs, rien qu'en écrivant cet épisode tranquillement sur mon lit, j'ai été interrompue 3 fois. Il y a toujours un devoir à terminer, un dessin à admirer avec enthousiasme, un enfant à conduire quelque part, un repas à préparer, des courses à faire ou une troisième guerre mondiale entre frères à désamorcer. Donc la première contrainte de la méthode par catégorie, c'est qu'elle peut transformer notre maison en véritable chantier. Déplacer tous les articles d'une même catégorie au même endroit peut sembler logique, mais dans la pratique, ça peut rapidement créer du chaos, surtout si on a plusieurs pièces à traiter. Et ça, je trouve ça difficile. Ça m'amène tout droit à la deuxième difficulté de la méthode. Ce va-et-vient constant entre les pièces et les catégories peut sembler interminable. Contrairement à une approche zone par zone ou meuble par meuble où l'on voit rapidement les progrès, la méthode de Marie Kondo peut donner l'impression de tourner en rond, ce qui peut être décourageant pour certains d'entre nous. Quand on s'attaque à notre maison zone par zone ou meuble par meuble, on voit cet avant-après si satisfaisant et motivant beaucoup plus rapidement. Petite parenthèse, on m'envoie régulièrement des photos d'avant-après pour vos tris. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous avez envie de témoigner de votre avancée, n'hésitez pas, allez sur Instagram et envoyez-moi vos photos d'avant-après, j'adore ça. Bref, parenthèse refermée. La troisième difficulté réside dans l'organisation du rangement. Avec ce passage d'une catégorie à une autre, le rangement définitif est beaucoup plus long à mettre en place. On range ses livres dans un endroit, après avoir trié par exemple, mais au moment où on fait les kimonos, on se rend compte qu'en fait, il serait mieux à une autre place. L'espace se libère petit à petit, et du coup, on n'a pas cette vision globale du rangement de la pièce ou de la maison en fonction du nouvel espace disponible. Et pour des gens comme moi qui aiment bien avoir cette impression d'avancer, ça peut être un peu frustrant de faire des allers-retours dans nos décisions. Et enfin, la dernière chose que je trouve compliquée avec cette méthode, c'est la notion de joie. Et c'est rigolo parce que c'est aussi l'aspect que j'aime le plus. Bien sûr, l'idée de ne garder que ce qui nous rend heureux est séduisante, mais pour certaines personnes, ça peut être un véritable défi. Si vous êtes attaché à tout ce qui vous entoure, vous n'arriverez pas à vous débarrasser de grand-chose. Combien de personnes connaît-on dans notre entourage qui gardent les choses avec excès parce qu'ils tiennent à tout ? Pour moi, ce critère de tri n'est donc pas le plus efficace et peut-être même contre-productif pour certains. Je pense en particulier à des enfants qui peuvent être très attachés à tous leurs jouets. Si on leur demande de garder que ce qui crée de la joie, on ne va pas avancer beaucoup. Maintenant, ayant dit tout ça, malgré ces défis, il faut reconnaître que la lecture de la magie du rangement a été une expérience transformative pour beaucoup, moi y compris. Ce livre m'a ouvert une nouvelle perspective sur ma relation aux objets, m'invitant à réfléchir sur mon attachement et sur l'impact de ces possessions sur mon quotidien. C'est une exploration fascinante qui peut ouvrir la voie vers un mode de vie plus minimaliste. Donc même si comme moi vous n'êtes pas convaincu par la méthode, je recommande vivement la lecture de ce livre pour sa philosophie enrichissante. Et si vous souhaitez vraiment vous engager dans la méthode KonMari, envisagez de vous faire accompagner par une ambassadrice KonMari pour un soutien personnalisé. Simple recherche internet devrait vous aider à trouver quelqu'un de certifié dans votre région. Et voilà pour l'épisode bonus, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous découvrez le podcast via ces épisodes, je ne peux que vous inciter à aller écouter les plus longs épisodes. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, je vous mets tous les détails en description. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez partager cet épisode, mettre des pouces, des cœurs et des étoiles, ainsi que des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi faire un don sur la plateforme Ko-fi pour m'aider à couvrir les coûts de la production du podcast. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.